الأغرق في دافئات المنى سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا
On a fait la liste de nos objets mélancoliques. La Miasiadée, ça commence par...
Les ruines antiques, colonnes, chapiteaux, sarcophages. Les ruines récentes sont pas mélancoliques, mais tragiques. La musique, un impromptu de Schubert, une chanson de Fayrouz, comme celle qu'on écoute, ou d'Asmahan, ou la chanson Beyrouth de Yasmine Hamdan.
Qu'est-ce qu'elle dit, la chanson de Fayrouz qu'on entend ?
Nous allons revenir. Sinon, les bouquets fanés, plantes malades, arbres décharnés, jardins abandonnés, pour moi, c'est le summum de la mélancolie.
Vous les avez rajoutés au dernier moment, jardins abandonnés ?
Oui, j'ai pensé à un jardin en particulier, c'est le jardin botanique de Lisbonne qui est complètement qu'avec des cactus cassés, des arbres décharnés, complètement à l'abandon, et qui est le plus beau jardin que je connaisse.
Alors, la liste de vos objets mélancoliques, Yasmina Ben Abderrahman.
Oui, donc, je parlais plutôt de pierres ou de cristaux, qu'on peut voir aussi dans une gravure de Dürer, donc une forme un peu improbable, un peu physique, et qui était aussi une base sur un de mes travaux de 2011, que j'ai appelé Collection Minérale. Voilà. Sinon, il y a aussi l'appareil photo, plutôt le... pour une image instantanée, une image latente, qui est le Polaroid, qui est un peu une sorte d'image survivante, ou qui est un objet qui est encore et aujourd'hui revisité, réactualisé, et qui est un peu un objet un peu rare, qui me fait penser un peu à l'image mélancolique, quoi. Mais aussi, du coup, le drapé, le pli, qu'on peut voir dans le milieu antique, mais qui, pour se draper, peut cacher quelque chose ou en révéler un corps... une surface, un paysage, voilà.
Et une chanson de Fayrouz comme celle qu'on est en train d'écouter, la Miasiadée, c'est quel genre de grande mélancolie ?
Orientale, sûrement, de nostalgie du Liban, d'être loin du Liban ou d'être au Liban dans cette région tellement incertaine. La chanson de Fayrouz évoque tout ça. Et là, je disais que la chanson, c'était « Nous reviendrons », mais elle parle des réfugiés palestiniens qui pensent revenir en Palestine. Donc c'est vraiment très, très... je ne sais même pas si mélancolique est le mot. Voilà.
Que je cherche dans l'histoire, et je ne m'en cache pas, je cherche à établir en quelque sorte des mythes positifs, c'est-à-dire des antidotes aux mythes négatifs qui empoisonnent le monde où je vis aujourd'hui. J'essaie de puiser dans l'histoire des figures qui peuvent illustrer un certain nombre de valeurs auxquelles je crois.
Il est 23h et le passé est décevant. On ne s'y fera jamais. Notre mélancolie a grandi en s'en apercevant. Nous sommes nés avec des regrets, des déceptions de moments même pas vécus. On est nés et on a été déçus par ce qui venait de se passer. Comment c'est possible d'en arriver là et d'arriver à ce moment-là ? La Miasiadée est née en 1968 à Beyrouth et ça n'a pas suffi pour désamorcer le temps, les années d'avant allaient dynamiter celles d'après. Lamia Ziadé dessine et écrit un siècle au Proche-Orient. Ça s'appelle « Ma très grande mélancolie arabe ». Il y a des semblants de vie, une opel astra qui court vers le sud, une bière almassa, le soleil, et puis très vite un cimetière près de la ville de Tyr, et très vite une histoire comme un immense cimetière de martyrs, d'attentats, d'assassinats. Lamia Ziadé dessine tout ce qui tente d'avoir une vie longue et qui a été stoppée. Des visages de jeunes filles, le musée de Beyrouth ou une enseigne dans le centre-ville, Orient. L'Orient a été dynamité. Elle dessine comme un antidote pour ranimer les idées mortes et faire apparaître une partie de l'histoire oubliée. Yasmina Benabderrahman révèle aussi dans ses photographies et ses films ce qu'on n'a pas vu ou mal regardé. Les moments où on a avancé les yeux fermés, elle enquête sur ce qui a été montré et ce qui a été caché. Elle s'approche de la matière vivante, la peau, le minéral, elle fait tout trembler. Elle révèle des morceaux de vivant, des jambes au soleil, des intérieurs. Elle recompose un présent un peu moins décevant. Notre très grande mélancolie existe, mais a à présent les yeux grands ouverts.
L'Opel Astra file en direction du sud. Le sud Liban, terre de martyrs, de ruines et de passions. À bord, tu es le seul passager. Tu as décidé de te rendre à Tyr la veille, dans un bar de Hamra, en écoutant un inconnu te dire que dans cette partie du Liban, il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Décision de nuit d'ivresse, mais te voici tout de même dans ce taxi qui vient de dépasser Saïda. J'ai sillonné la Méditerranée et la Mésopotamie, dur à volubilis, mais n'ai nulle part retrouvé la magie de Tyr, t'a dit l'inconnu la veille. Tu vas donc vérifier que rien n'a bougé, que le charme est toujours là, dans ses ruines. Mais c'est surtout parce que tu voudrais photographier certains cimetières que tu te diriges vers le sud. C'est un cimetière au soleil, il descend doucement vers la mer, à la pointe de Tyr, entre deux champs de vestiges antiques. Un cimetière où poussent en anarchie figuiers, lauriers, grenadiers, palmiers, roseaux, colonnes romaines et chapiteaux. Y fleurissent littéralement des tombes de martyrs tombés au combat ou celles de familles entières fauchées sous les bombardements israéliens. C'est un cimetière paradisiaque, gai, joyeux, enrubanné. L'inconnu t'a affirmé « Si vous aimez la mélancolie des cimetières, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. » Il ne pensait pas si bien dire « Ton voyage dans le deuil et la destruction ne fait que commencer. Il va être funèbre et merveilleux. Tu entres dans l'histoire du Proche-Orient. »
Il y aura Lamia Ziadé, artiste libanaise dont on vient d'entendre le début du récit illustré « Ma très grande mélancolie arabe, un siècle au Proche-Orient » qui vient de paraître aux éditions POL. Il y aura la photographe et vidéaste Yasmina Benabderrahman, qui vient de recevoir, avec son projet en cours, à bras le corps, le prix du bal de la jeune création. Et son film La Renardière sera mercredi 15 novembre projeté à Bagnolet à 18h30. Et pour la mélancolie et l'élan, à la musique, il y aura Peter Von Paul, en tournée en ce moment avec son nouvel album Sympathetic Magic. C'est une vie d'artiste sur France Culture et ça commence avec la voix de l'écrivain Amin Malouf.
Parlons un peu de ce mythe. À mon avis, ce qui est intéressant dans l'expérience libanaise, ce n'est pas le modèle de tolérance comme on l'a dit quelquefois. Ce n'est pas vrai. Il y a la tolérance, il y a l'intolérance. Il y a la coexistence, il y a aussi la difficulté et parfois l'impossibilité de coexistence. Ce qui est intéressant, en fin de compte, dans l'expérience libanaise, c'est le fait que des gens se côtoient depuis des siècles et qu'ils aient une connaissance intime des autres sensibilités, des autres cultures, des autres traditions religieuses. C'est surtout cela qui reste. J'ai énormément de critiques à faire au système libanais. Pour l'essentiel, il me semble qu'il n'a pas fonctionné. Je n'ai aucune sympathie pour le système de quotas qui fait que l'on partage le pays entre les différentes communautés qui se répartissent les charges politiques, les fonctions administratives. Tout cela ne m'inspire pas confiance et puis j'imagine que l'expérience a démontré que ça ne fonctionnait pas. En revanche, ce qui est intéressant dans l'expérience libanaise, c'est de reconnaître déjà qu'il existe des différences entre les gens. Quand il y a une communauté qui se sent différente des autres, qui a une autre trajectoire, qu'on lui dise « Vous existez, nous reconnaissons votre existence, vous avez votre place dans cette société et nous allons voir quelle place vous pouvez avoir. » C'est déjà une démarche hautement civilisée.
Lamiazadeh, vous partez sur la route du Sud avec cet Opel Astra. On vient d'entendre l'extrait du début du roman. Avant de revenir à Beyrouth, et dans le Sud, vous allez à Tyr. Et il y a ce jeune serveur qui vous raconte sa conception de la cohabitation au Liban. Est-ce que ça a modifié un peu la vôtre conception de ce mélange de communautés ?
C'est un peu la mienne et celle qu'on vient d'écouter de Damien Mahalouf, mais qui l'explique d'une façon certainement plus brillante que je ne risque de le faire ce soir, et beaucoup plus fine, parce que c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est les mots qu'il a prononcés, tolérance, civilisation, etc. Et c'est vrai que ce serveur est un peu le porte-voix de ce modèle libanais qui peut être très décrié pour beaucoup de choses, mais en tout cas pas pour ça.
C'est ce qu'il dit à Amin Maalouf, il dit on se côtoie, donc il y a cette idée quand même qu'on existe, que vous existez. Et ça, c'est déjà assez énorme.
Oui, et puis je ne sais pas quand il a donné cette interview, mais depuis quelques années, où on voit que partout ailleurs dans le monde arabe, tous les modèles différents sautent en éclats, et que pour l'instant, je touche du bois, ça tient encore au Liban. C'est très très tendu en ce moment, donc je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est quand même, ça reste vrai, quoi. On vient encore tous ensemble et vraiment mélangé, quoi. C'est malgré 15 années de déchirement et de guerre civile et pas civile d'ailleurs, mais voilà.
Et dans Ma très grande mélancolie arabe, vous entrez dans l'histoire du Proche-Orient et vous remontez le fil d'une centaine d'années. Est-ce que vous, quand vous parlez de ruines, et tout à l'heure on a ouvert l'émission aussi avec ces ruines comme objet de la mélancolie, est-ce qu'en 91, quand la guerre est finie, vous êtes encore une petite fille, vous découvrez le centre-ville de Beyrouth et aussi le sud de Beyrouth, est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte des destructions et des ruines concrètement?
Oui, je ne suis pas une petite fille quand la guerre se termine,
oui,
j'ai 20 ans.
Ah oui, pardon, petite fille quand elle commence, vous avez 7 ans.
Et c'est vrai que le centre-ville de Beyrouth en 91 était quelque chose de totalement fantastique. Des photos existent, heureusement. Une mission a été demandée à 5 grands photographes pour garder ce témoignage du centre-ville de Beyrouth tel qu'il était avant qu'on reconstruise. C'était complètement fantastique. Et moi, j'y suis allée dès que ça a été possible. Dès les premiers jours, je suis allée dans le centre-ville. On pouvait même pas encore marcher sur les bords des routes parce que c'était pas déminé. Juste le milieu de la route était déminé, mais c'était incroyable. Et je ne sais plus quelle était la question.
Et le sud ?
Et donc le sud...
La ville de Tyr ?
Oui, alors là, c'est les ruines antiques, mais dans la ville de Tyr, il reste des ruines récentes dues au bombardement israélien, les derniers étant en 2006, mais il y en a eu beaucoup souvent avant. Et en fait, c'est vrai qu'on va de ruine en ruine dans ce pays, mais on reconstruit toujours. En général, C'est cette chose que je trouve incroyable au Liban, c'est aussitôt qu'un conflit, un mini-conflit est terminé, on reconstruit directement. La première partie du livre se passe à Tyr et dans le sud Liban, où je me balade entre Tyr, le château de Beaufort, la frontière israélienne, Nabat Yeh, Saïda. Et la deuxième partie se passe à Beyrouth, où... je vais dans le camp de Shatila, sur la corniche de Beyrouth, place des Martyrs, etc. Et dans tous ces endroits, il y a eu des attentats ou des destructions ou des voitures piégées ou des attentats qui ciblaient des personnes précises, politiciens ou autres. Mais tout ce deuil, ces destructions m'amènent à parler aussi de la même chose, mais en Égypte, en Irak, en Syrie... dans d'autres pays arabes, même en Algérie, en remontant dans le temps, etc. Et donc c'est en fait un énorme champ de ruines et de tombes, tout le Proche-Orient en fait.
Et pourquoi vous avez eu envie de tirer ce fil-là de la destruction, de la disparition?
C'est venu par hasard, complètement par hasard. C'était pas du tout mon intention en commençant le livre, et puis je me suis laissée emporter. Mon sujet était ce qui reste d'un chapitre du livre, et en commençant à raconter l'histoire de ce chapitre-là, de digression en digression, je suis arrivée à. C'est le chapitre sur les jeunes femmes, les premières femmes kamikazes du Proche-Orient, qui, donc, comme je le disais, étaient souvent des chrétiennes. Donc c'était pour un peu démonter l'idée un peu caricaturale qu'on a de attentat kamikaze égale islamiste. Donc c'était juste le début, et j'avais pas du tout l'intention, et j'ai été emportée sans m'en rendre compte en faisant des recherches ou en racontant des choses aussi que j'ai vécues dans en me servant de ce fil rouge qui est les cimetières, les tombes et les attentats, etc.
Très souvent, la vue de ces spectacles de martyrs, la vision de ces scènes provoquant des larmes, ont deux causes. D'abord, évidemment, le fait de voir un saint homme traîné dans cette passion vers la mort de cette manière-là, mais aussi chaque personne, chaque spectateur ou chaque spectatrice pense aussi à ses propres malheurs du moment, à ses problèmes familiaux, à l'oppression que les différents régime ou lui faisait subir. Je veux dire qu'il y a cette participation est à la fois religieuse et aussi personnelle. Le son des larmes versées par les fidèles qui, comme un rythme extraordinaire, accompagnent tous les spectacles, c'est-à-dire qu'il y a des moments de silence, des moments où les larmes montent par vagues, et puis brusquement des moments de détente extraordinaire où on entend les spectateurs rire.
Pourquoi la Miaziadeh, au début du récit illustré, il y a la bataille de Karbala ?
Oui, donc le livre n'est pas juste des retours en arrière sur un siècle, mais parfois je fais des bonds jusqu'au Moyen-Âge, voire l'Antiquité. Je raconte la naissance de la déesse Europe, qui a donné son nom au continent, l'Europe, et qui est née à Tyr. Donc il y a vraiment, ça va dans tous les sens, et très loin dans le passé. Et la bataille de Karbala, c'est beaucoup, parce que donc mes livres sont illustrés, et ils sont largement plus illustrés qu'écrits. Donc souvent, ce qui me mène à parler de certaines choses, c'est quelque chose de visuel que j'ai envie de dessiner. Et là, dans ce cas-là, c'est très certainement ma fascination pour cette imagerie de la bataille de Karbala, imagerie donc qui est au fondement du chiisme. Tous ces combattants avec les yeux ourlés de mascara et de kohl, je trouve ça assez fascinant, ces couleurs chatoyantes, ce côté un peu entre kitsch et religieux, enfin je sais pas, j'avais envie de dessiner ça, donc j'ai raconté la bataille en rentrant dans les détails, et j'ai pu dessiner pas mal de... c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en plus dans le sud Liban, n'importe où vous avez des drapeaux ou des pancartes représentant des scènes de la bataille et tout, spécialement à la fête de Ashura. C'est à ce moment-là que je commence mon livre, c'est pour ça que donc je raconte la bataille aussi.
Et justement, cette question de quoi dessiner, parce qu'il y a une profusion d'images qui existent de fait de certains événements qu'on connaît, aussi de visages de martyrs qui sont parfois, vous en parlez, le long des routes. Comment, à partir des photos, des images qui existent déjà. Vous, vous prenez des photos de, des paysages, de, des visages. Comment vous...
Oui, il y a toute une iconographie très pop, populaire. C'est, dans mon livre précédent, c'était les chanteuses. Et là, en fait, c'est à peine différent, mais c'est souvent ou des combattants ou des martyrs qui sont représentés en peinture ou en photo. Ou des sigles de partis politiques, etc. Je trouve ça très, très attractif, en fait. Et donc, la spécificité de ce livre par rapport à mes autres livres, c'est que toutes les illustrations, vraiment toutes, sont faites à partir de photos. Chaque fois, une seule photo, ce qui n'était pas le cas dans d'autres livres. Je prenais parfois 3 photos, j'en faisais un montage pour arriver à une scène. Et là, c'est uniquement des photos. Donc souvent, c'est des photos célèbres ou officielles. Par exemple, le portrait du roi d'Irak, enfant, ou de Sadat, ou de, certaines photos de Arafat qui sont devenues des photos cultes. Les premières où il a ses lunettes Ray-Ban et son kéfié et son fusil qui sont en noir et blanc et tout, c'est un peu des images archi connues que j'ai reproduites en illustration exactement telles qu'elles sont. Mais il y a aussi des photos de, que j'ai prises dans des documentaires ou des films d'archives donc en faisant arrêt sur image et en tirant une scène de bataille ou des choses comme ça. Mais il y a aussi, et c'est pour ça que ça rend le livre beaucoup plus intime, que je peux l'appeler ma très grande mélancolie arabe, c'est des photos que j'ai prises moi-même. C'est-à-dire que toutes les photos qui sont prises dans le sud Liban, dans les ruines ou dans le souk ou autour du château de Beaufort à la frontière israélienne et tout, c'est moi qui les ai prises. Toutes celles qui sont prises à toutes les illustrations de l'intérieur du camp de Shatila aussi, c'est moi qui ai pris les photos. Les personnages que j'ai dessinés sont des personnages que j'ai rencontrés, que j'ai pris en photo, etc. Donc même pour les choses récentes, c'est des photos mais prises par moi.
Et dans tous ces récits de destruction ou de disparition, il y a une histoire qui est une histoire un peu différente, celle de Maurice Chehab.
Chehab,
pardon. Oui. Qui était directeur des antiquités au musée de Beyrouth quand la guerre a éclaté. Et vous racontez la façon dont il a sauvé beaucoup d'œuvres du musée, parce que le musée se trouvait sur la route de Damas, qui était la ligne de démarcation, donc était un endroit stratégique, oui. Et on savait qu'il y aurait des destructions. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire?
Oui, moi j'adore cette histoire. Je trouve qu'en plus, on peut lui être vraiment reconnaissant. Le musée de Beyrouth renferme vraiment des chefs-d'œuvre incroyables. C'est un petit musée, c'est pas grand, mais il y a des pièces uniques au monde. Et elles étaient impossibles à transporter en dehors du musée, parce que des sarcophages de plusieurs tonnes, en urgence, au milieu des combats, c'était impossible à transporter. Et Maurice Chehab a eu l'idée de faire couler du béton armé sur ces sarcophages, en les laissant donc in situ dans la grande salle principale du musée, donc vraiment accessible à tout le monde, mais il a fait couler du béton armé dessus, ce qui fait que tous les bombardements, parce que le musée a été assez détruit par des bombes, mais il a aussi été envahi par différentes factions à tour de rôle de chaque camp au fil de 15 ans. Ça a changé de main beaucoup et il y a eu des combats à l'intérieur même du musée aussi. Et ces sarcophages sont restés sous le béton et quand la guerre s'est terminée, plusieurs années après, quand un film existe du moment où les sarcophages ont été, enfin où le béton a été cassé où sont réapparus les sarcophages, et c'est vraiment magique. Il est vendu au musée de Beyrouth, ce petit DVD de, je sais pas, 10 minutes où on voit comment sont et c'est vraiment incroyable. C'est comme s'ils étaient redécouverts une deuxième fois par des archéologues. Et c'est comme ça qu'ils ont pu être préservés, comme les sarcophages anthropoïdes qui sont vraiment exceptionnels et qui ont été scellés dans un mur. Il a fait construire devant eux une fausse paroi. Donc ils sont restés toute la guerre cachés en fait entre deux murs au sous-sol du musée. Donc je raconte vraiment des histoires très différentes. C'est vrai que ça, c'est loin des histoires de martyrs. Et je crois que, non, je suis sûre, j'étais pas sûre, mais je me suis renseignée récemment. Maurice Chehab est mort sans avoir revu parce qu'il était déjà très vieux au début de la guerre.
il y a un élément incontestable qui est le poids de la poésie en général dans la culture arabe. Et ça, c'est pas spécifique aux Palestiniens. Mais dans le cas des Palestiniens, je crois, quant à moi, qu'il y a eu une donnée très, très importante. Et je reviens à cette histoire de l'absence. Les Palestiniens, quand ils partent dans des exils, sont en permanence dans un temps de passage. Ils sont tout le temps dans la durée de l'intermédiaire. Entre un passé qui a été aboli et un avenir qui n'arrive pas. Ils sont tout le temps dans une sorte de transition. Donc il y a un rapport au temps qui est très particulier. Où que vous soyez, j'ai parlé d'ennui tout à l'heure, dans le camp de réfugiés, il y a également tout le temps cette idée du passage, mais un passage bloqué, figé, hein, et anesthésié presque. Donc il y a un rapport au temps très étrange. Dans ce rapport au temps très étrange, la poésie est idéale pour aborder les choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a une contraction de tout. Il y a une contraction de la langue, il y a une contraction de la durée. Elle n'est pas simplement le fait qu'un poème est plus court qu'un roman, ça c'est complètement... Et cette contraction correspond parfaitement à ce temps qui est contracté et bloqué.
C'est la voix de Delia Sambar qui parle de la contraction du temps dans la poésie et de l'importance de la poésie dans la culture arabe. Lamia Ziadeh, est-ce que le dessin, c'est aussi une façon de pouvoir contracter le temps ?
Le dessin est mon principal moyen d'expression. En fait, c'est un peu comme si je ne savais pas faire autre chose, mais en fait, j'écris quand même. Mais ça passe avant, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, par l'image et... contracter le temps, je sais pas, mais ça, moi, ça me permet de raconter les choses d'une manière plus, j'ai employé le mot populaire, enfin plus accessible, je pense, et à moi et aux autres que si, enfin, je suis pas capable de toute façon d'écrire, donc je suis plutôt artiste. Au départ, plasticienne, etc. Donc,
même s'il y a un vrai récit qui accompagne les dessins.
Oui, oui, alors du coup, je me suis laissée prendre au fait d'écrire, mais c'est assez récent pour moi, avec un précédent livre qui était Bye Bye Babylone, où je racontais mes propres souvenirs d'enfance. Donc ça, personne ne pouvait le faire à ma place. Et donc j'ai écrit, mais c'était des phrases courtes, quelques lignes par page, etc. Et puis finalement, je me suis laissée prendre au jeu, mais c'est plus naturellement par le dessin que passe ce que j'ai à dire ou à raconter ou...
Et avant de l'écrire et de le formuler comme ça, vous saviez qu'elle existait, cette très grande mélancolie arabe, chez vous ?
Oui, je crois. Et je pense que pas que chez moi. J'ai beaucoup, beaucoup d'orientaux, en tout cas, je crois. Oui.
Mais elle se formulait comme ça ? C'était une mélancolie profonde ?
Mais c'est une mélancolie qui est toujours joyeuse aussi. Je ne sais pas très bien comment définir ça, mais... ça n'empêche pas d'être très bon vivant, de voir les choses toujours du bon côté, alors qu'on devrait les voir de la façon la plus tragique, mais c'est pas une mélancolie dépressive. Je crois pas. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas ça.
Pour la mélancolie, mais aussi pour l'élan. En studio ce soir, c'est Peter Von Paul. Sa ville natale, Malmö en Suède, mais il a choisi depuis longtemps une vie nomade. Son nouveau disque s'appelle Sympathetic Magic. Il a toujours le son délicat et ourlé de sa voix. En ce moment, il est en tournée à Ajaccio, Béthune, Brest et Lyon dans les prochaines semaines. Et le premier morceau s'appelle The Early Hours.
Bonsoir, je suis Peter Von Paul. Nous sommes en studio avec Lamia Ziadeh, Yasmina Benabderrahman. Vous écoutez La vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. Et on est ensemble jusqu'à minuit. Tell me something that I don't know, that I'll love you some that time. I'll be picking up the blowdown, then I'll go. Then arrive at some conclusion, something we could stand up to. Money's worth and then some. My own pride. Dew upon my fingers, distant mountains dimly drawn. I don't see much from where I stand. Kind of this world. Surely
Yasmina Benabderrahman, vous avez quel souvenir de l'Institut de beauté dans lequel vous avez grandi ?
Ah, c'est même pas qu'un souvenir. Ma mère travaille toujours dans son institut. Quand je vais la voir, c'est comme un. Plus qu'un souvenir, c'était un quotidien que je vivais. J'ai un peu grandi dans un salon de beauté, donc oui. C'est plus qu'un souvenir, on le vit. Je le vis encore, je dis ça.
Une de vos premières séries photographiques s'appelait « Corps grisé, corps voilé ». C'était en 2006.
Oui.
Et c'est des photographies de corps, de visages, de femmes masquées derrière des collants parfois.
Oui.
Pourquoi ça a commencé par ces corps qui étaient cachés?
Pour mieux les révéler, je pense, en somme. Après, le bas était plutôt une sorte d'accessoire fétichiste. Il y a une photographie que j'ai appelée Sadomaso, où en gros on a deux faces, donc une qui faisait un semblant d'une sorte de masque noir et un autre qui était un peu lié, comme une sorte de visage voilé. C'était deux corps, des corps révélés, plutôt anonymes. Je voulais parler d'un corps de femme, torturée, ou plutôt psychologiquement que physiquement, puisque ce n'était qu'une image, et c'était une excroissance de peau, donc c'était une sorte d'élastique qui pouvait être réutilisé. Bref, voilà.
Et malgré le fait que vous ayez grandi dans un espace où on prend soin du corps, on s'en occupe, il est au centre...
Tout à fait.
Vous dites que c'était un tabou.
Oui.
Ça n'existait pas.
Au-delà même de celui de ma mère, puisque, en gros, j'ai toute une partie d'une famille qui est quand même assez... plutôt musulmane, pratiquante, où le corps, certes, n'était pas... enfin, était un peu tabou, même si, oui, on peut le voir comme ça, même si dans un milieu de femmes, même quand on va au hammam ou qu'on discute, entre nous, entre femmes, il n'y a pas de tabou réel. Mais lorsqu'on est vraiment dans la sphère publique, évidemment, il y a un rapport au corps où, qui n'est pas du tout le même, puisqu'on ne peut pas être montré ou pas se montrer en tant que tel, ou plutôt réservé, vaut mieux se réserver pour mieux se cacher, pour peut-être mieux se confondre dans la vie. Et... cette autorité de ce regard, de ce qu'en dira-t-on, il y a ce truc, oui, il y a un rapport au corps, oui, qui est particulier. Même si, oui, dans un autre pan de cette famille, donc de ma mère, où le corps en est mieux dit, mieux révélé. Ou...
Et en tout cas, est-ce que l'envie de faire des images, c'était lié au corps féminin, au départ ?
Au départ, c'était le plus simple. De mes premières photos, ou même de mes premiers dessins, c'était des cours de nu, tout bêtement, où... une sorte d'académie où on m'avait invité par une amie, où j'ai commencé donc à dessiner donc un corps qui était vu plutôt comme un objet que comme un objet dissexué. Donc cet attrait est venu assez rapidement et mes premiers modèles étaient mes amis, les proches. Oui, ça s'est venu assez rapidement, oui.
Dans les premières vidéos, en tout cas dans plusieurs vidéos, il y a aussi l'idée de... pas toujours cette idée de ce qui est révélé, ce qui est caché, mais l'idée d'une seconde peau, quelque chose qui cache la peau réelle. Je pense à une vidéo où on voit un masque sur un visage qui se détache petit à petit.
Oui, donc dans des mascaras, on voit vraiment un visage qui est projeté, qui a d'ailleurs une forme un peu massive, puisqu'elle est projetée en très grand format. Donc on a un rapport au corps qui est complètement différent. Donc cette face, cette grande amas, donc qui en est d'ailleurs mieux révélée, de ce masque de peau, donc qui vient vraiment donc prendre et recouvrir toute cette forme, en est le mieux révélé. Et c'est une sorte de fragment, un instant, donc un geste qui est capturé et qui montre du coup un corps dans son plus grand repos.
Ça, c'est des mascaras, il y a aussi mascarade.
Ah oui, à l'inverse. Donc ça, c'était le petit jeu de mots. Ou dans mascarade, c'est un peu une citation à une Marilyn moderne où j'ai rencontré par hasard en allant au musée de la photographie à Copenhague une femme vêtue donc d'une jupe et d'un bombers. Okay. Et plus je me suis rapprochée de cette personne, plus j'ai remarqué qu'elle était assez étrange puisqu'elle n'avait pas ce geste de pudeur qui est un geste particulier que toute femme font quand une jupe prend l'air. On a toujours ce petit geste très pudique de se cacher la culotte. Et en gros, elle ne le faisait pas, donc ce qui m'a intriguée très rapidement. Donc, au fur et à mesure, du coup, que je me suis rapprochée, à essayer de discuter avec cette personne, puisqu'elle m'intriguait beaucoup. Et comme toute rencontre inattendue, que ce soit des objets, des gens ou n'importe. Donc, je prends un temps donné, et j'ai remarqué que c'était pas une femme et un homme, qui d'ailleurs se prostituaient, donc elle avait un temps particulier où je la dérangeais, je pense. Mais il y a une sorte de jeu un peu étrange où, elle se baladait, j'étais présente, donc j'ai capturé avec ce que je pouvais avoir à l'époque comme appareil photo, plutôt une caméra, puisque la photo, ce petit instant magique, qui était pour moi magique. Quoi. Du coup, mascarade qui, d'un jeu, en était révélée.
Il y a aussi des femmes que vous connaissez, dont vous avez essayé de faire le portrait, je pense à vos grands-mères. Mmh. Votre grand-mère maternelle, c'est une vidéo qui s'appelle Portrait Paysage. Mmh. Et là aussi, c'est un mélange d'images érotique, mais pas forcément juste par la matière parfois, parce que c'est un montage très rapide avec des images d'intérieur, de pas forcément de corps, mais et puis justement un corps pudique ou des jambes au soleil à une fenêtre, des choses très douces. Comment vous l'avez pensé ce portrait de cette grand-mère?
Alors, ce portrait était particulier d'ailleurs, c'est un échange avec ma grand-mère où à ce moment-là elle avait l'impression que je la soignais avec ma caméra, c'était assez drôle. C'était toute une sorte de discussion et...
Comment elle avait cette impression?
Parce que du fait d'être en macro, j'étais assez proche donc, de son corps. Du coup, je lui expliquais, parce qu'on venait d'apprendre qu'elle avait l'ostéoporose, qui est une maladie de femme, du coup, de femme âgée, et qu'il fallait qu'elle prenne le soleil pour mieux fixer la vitamine D. Du coup, je lui expliquais qu'il fallait qu'elle sorte, qu'elle se mette un peu à nu, enfin, même si c'était un peu compliqué de demander à une femme telle que ma grand-mère de se mettre à nu, un peu impossible. Mais de ce jeu de mains et de pieds, c'était assez drôle. Du coup, de cette matinée très active, d'où les motifs et tous ces fragments donc, qui passent et qui sont entrecoupés. Souvent dans mes films, je fais plutôt du... J'utilise un peu le terme un peu barbare, mais qui est un peu du tourné-monté, où je suis très dans l'instant, où je construis image par image et de fragments. Donc tout se fait donc, vraiment sur un instant. Et du coup, c'était une sorte de jeu, quoi. Même d'ailleurs, quand j'ai montré ce film, elle m'a toujours dit « Mais ce n'est pas moi, c'est toi. Je ne comprends pas. Elle n'a même pas l'impression que c'est d'ailleurs son propre corps. » Donc c'était assez drôle.
Et elle s'est sentie soignée?
Oui, peut-être parce que c'était la vague de chaleur qui était sur son corps. Je ne sais pas, c'était suite à une discussion, c'était un échange particulier. Du coup, que je trouvais assez beau. Donc c'était un petit fragment particulier, un petit instant que j'ai partagé en tout cas avec elle.
C'est vrai, Lamia Ziadé, que dans une autre vie, vous auriez aimé être danseuse de cabaret?
Pas dans une autre vie,
dans cette vie-là,
oui. Mais c'est trop tard.
C'est jamais trop tard, vous savez pas. Vous avez découvert une autre grand-mère que vous avez rencontrée plus tard.
Oui.
Quand vous aviez 23 ans, Yasmina Benabderrahman.
Une première fois, oui.
Et est-ce que vous connaissiez quelque chose de sa vie à ce moment-là?
Ben, pas vraiment, enfin, de toute petite, on ne parlait pas vraiment de cet autre côté, donc de ma famille, puisque mes parents sont séparés quand j'avais 3 ans. Et du coup, il y a tout un pan que je ne connaissais pas, donc du côté algérien de mon père. Mon père est moitié algérien, moitié français, ma mère est marocaine, berbère plus précisément. Et en gros, je ne posais pas trop de questions, parce que c'était un peu tabou, on ne pouvait pas trop poser des questions... Tout était un peu étrange. Et c'est vrai que mon père m'a toujours dit, une première fois que j'ai fait une crise à l'âge de 10 ans, je voulais absolument voir mon père, parce que c'était important, m'avait dit, oui, quand tu auras la majorité, que tu seras en études supérieures, on pourra se voir, tu seras grande. Enfin, quand tu seras grande, je t'expliquerai. C'était un peu une sorte de mythe. Mais bon, du coup, fait que quand je suis allée dans les études supérieures, je suis montée sur Paris pour faire les Beaux-Arts, entre autres. Donc j'ai eu une envie, évidemment, de retrouver ma famille, de savoir qui j'étais, d'où je venais. Bon, ça, c'est des questions existentielles de beaucoup de gens, mais donc, ça, c'est propre à moi. Et de cette grand-mère, j'en avais entendu que quelques bribes, où justement, ma grand-mère maternelle, lorsque je commençais à vouloir sortir ou aller en discothèque, quand j'avais 17-18 ans, me disait indirectement qu'elle ne comprenait pas pourquoi je m'habillais en jupe et que je me maquillais. Enfin, c'est des petits détails, un truc très simple. Alors, je ne m'habille pas forcément énormément dans la légèreté non plus, mais je ne me maquille pas non plus outrageusement. Mais un jour, d'une colère un peu forte, elle me disait que je ressemblais à ma grand-mère, la tenancière de bar. Du coup, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Du coup, c'était un peu étrange. Du coup, crise, angoisse, pleurs, enfin, interdit de sortie, enfin, voilà. Du coup, qui a fait que j'ai essayé de poser des questions, de savoir, mais comment ma grand-mère, la tenancière de bar, je ne comprends pas, personne ne me disait quoi, enfin, c'était un peu particulier. Et à force donc, de discuter, j'ai rencontré donc, mon père, qui lui non plus ne m'en parlait pas vraiment, et donc j'ai voulu voir ma grand-mère. Donc, l'impératif était, lorsque j'avais repris contact avec mon père, c'était de voir cette grand-mère et lui poser des questions. Voilà. Après, elle m'en a parlé qu'une seule fois, mais bien plus tard. Donc à l'âge de 30 ans, quand j'ai pu du coup intégrer une autre école, donc le Fresnoy entre autres, qui m'a permis donc de rencontrer cette grand-mère qui en plus venait de la région du Nord-Pas-de-Calais, donc elle avait un intérêt particulier donc pour moi. Et donc elle m'a raconté son histoire où pendant 10 ans de sa vie, du coup avec mon grand-père, elle tenait un hôtel de passe et voilà, j'en ai fait une sorte de portrait métaphorique que j'ai appelé la renardière.
Ben, c'était une copine qui en avait une. Et on a posé notre candidature, quoi. Parce qu'il faut savoir gérer ça. Je vais te dire que c'est pas évident, parce que tu dors presque pas. Franchement, mais c'était les 24 heures du Mans, tous les jours ouverts 24 sur 24. Ben, c'était Aix-la-Chapelle, à Rennes en allemand. 2 A-C-H-E-N. Antonoustrasse, 14. 14. J'avais 7 filles. 4 en vitrine. Il y en a qui faisaient le jour, il y en a qui faisaient la nuit. Non, mais moi je louais. T'intéresses que les filles, elles payent, parce que t'as à avoir des courageuses. Et toutes les maisons, elles avaient 7 ou 8 filles. Mais moi j'avais déjà une grande maison, j'avais déjà 7 filles. Il y en avait qui n'avaient que 4 chambres. Mais avec 2, avec 3, tu remplissais tout ton loyer, tout et tout. Pour un mois. Hein. Et le reste, c'était 4 bénéfices nets. Et le matin, je leur faisais leur petit déjeuner, ce qui coûtait aussi 5 marques. Le midi, une assiette de crudité avec thon, avec toutes sortes de légumes, 10 marques. Et le soir, soit je faisais couscous, paella, ou poisson, c'était 10 marques aussi. Et les consommations, on les payait aussi, naturellement. Hein. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle de Marseille. J'avais pas d'allemande, elle se trouvait néante.
C'était un tout petit extrait de La Renardière, Yasmina Ben Abderrahmane. Quand vous décrivez le film, vous vous décrivez vous comme un enquêteur. Vous avez l'impression d'être à cette place-là ?
Un peu oui, puisqu'en fait ça a été un instant. Je suis venue avec mon Tascam, un petit enregistreur qu'on utilise pour interviewer en général. C'était vraiment un interview cuisine. Hein. D'ailleurs, elle faisait à manger lorsqu'elle me parlait, donc il y avait des clics, clacs, plein de choses.
Et il y a d'ailleurs une préparation de plat pendant la
tout
le
à
film.
Fait. D'ailleurs, oui, quand je l'ai filmé, il y a une partie du film donc, qui... où on voit donc ses mains en train donc de tuer, entre autres, vider, travailler, farcir donc un poulet. Donc c'est un peu une image métaphorique. Hein. Donc de tout ce corps qui travaille, de cette chair qui prend mal. Et oui, en tant qu'enquêteur, puisque je découvrais vraiment tout. Enfin, c'était un moment donné qu'elle m'a donné. Et c'est un instant particulier où on n'en reparle pas. Donc elle a bien voulu m'en parler qu'une seule fois. Et voilà.
Assez en détail.
Assez en détail, très crûment, un peu comme la vie, quoi. Enfin, tout ce qu'elle a à me raconter. Après, c'est quand même un personnage qui a vécu quand même pas mal de belles choses et de choses très dures comme très belles. Et ouais, elle s'est totalement dévoilée, oui, en racontant en tout cas un bout de cette vie-là.
Et comment vous faites pour que la pellicule justement soit un morceau vivant, comme vous dites, ou un morceau de vie ? Est-ce que c'est avec ce montage de plusieurs images, vous dites que c'est un portrait métaphorique parce que c'est vrai qu'on passe, on est dans sa cuisine, mais on est aussi contre son visage, on est contre des corps de femmes dans un hammam. Il y a beaucoup d'images qui se superposent.
Oui, par le grain de la matière de l'image, par les accidents aussi qu'on peut avoir en pellicule, par sa fragilité, par ne serait-ce que juste un petit grain de sable qui viendrait du coup abîmer donc cette émulsion qui... comme je dis souvent, cette chair pelliculaire, donc c'est un bout de morceau de vivant pour moi. C'est un peu une image métaphorique donc, de ce corps et de cet être. Et la pellicule, oui, pour moi, une partie un peu magique où on ne contrôle pas forcément tout ce qu'on a. On ne voit pas, comme au jour d'aujourd'hui dans le numérique, les images où on ne peut pas les accumuler pour mieux les effacer. Du coup, c'est un peu le reste qu'on a d'une image... du coup, qui résiste avec le temps, avec ses défauts et ses altérations et tout ce qui s'ensuit, oui.
Et au départ d'un film, il y a souvent une femme. Là, c'était les grands-mères. Il y a la femme de votre oncle, qui, elle, travaille sur des chantiers.
Oui.
Et à partir de laquelle vous avez envie de travailler, de faire des images.
Tout à fait. En gros, cette femme est aussi donc, la femme de mon oncle. Tous les deux donc, travaillent sur les chantiers, plus qu'un portrait unique que sur cette femme. Donc c'est un point de départ, donc c'est plutôt le tandem ou ce lien donc, entre ces deux êtres qui l'un comme l'autre sont complémentaires. Donc travaille autour d'un chantier qui est autour de la construction d'une œuvre posthume de Zaha Hadid, entre autres, qui se fait donc dans la vallée de Bourgreg au Maroc, donc entre Rabat, la ville de Rabat et Salé, qui d'ailleurs sont deux villes jumelles, donc il y a cette entité double, toujours dans l'idée du double, donc qui est toute une construction particulière qui tiendra fin normalement, je pense, en fin 2018. Donc c'est un début de projet que j'avais déjà commencé donc en 2012, donc sur le site qui était à nu. Les débuts de ces constructions-là, j'ai pu en faire des images qu'en 2016, puisqu'entre-temps, j'ai fait plusieurs choses, dont le Frénois.
On parlait de destruction avec Lamia Ziadé. Mm-hmm. Yasmina Benabderrahmane, il y a une vidéo aussi qui s'appelle La Villa Jumelle, mm-hmm. où là, vous avez filmé, ça dure une quinzaine de minutes, et on voit la destruction d'un bâtiment qui est entouré par des architectures modernes, une gare, il y a le train qui passe. Donc on sent que c'était déjà un endroit mort avant qu'on le détruise. Et vous filmez presque pierre par pierre la pelleteuse, un bout de tôle qui s'en va. Et vous dites c'est comme une vidéo de famille.
Oui.
Pourquoi ?
Plutôt un souvenir. C'était une entité, une maison que je ne voyais depuis petite. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que c'est que cette maison qui est en bord de gare ? Donc j'ai pu la redécouvrir à la suite d'un voyage à l'étranger où j'habitais un temps à Berlin, entre autres. Donc de mon retour, j'ai repris donc, le train pour aller voir ma grand-mère en banlieue parisienne. Et j'ai revu cette maison que j'avais oubliée et j'ai une envie un peu forte d'aller la voir, juste savoir où elle était précisément et quelle était son histoire. Donc, c'est vrai que je la vois comme une sorte de maison personnifiée. Ça s'appelle la Villa Jumelle parce que c'est la Villa Jumelle d'une autre, qui elle d'ailleurs est actuellement encore résistante, qui est encore actuellement présente. Et du coup, cette villa a été détruite pour être remplacée par un data center, donc à fleur donc de la Seine, donc c'est un peu particulier. Et oui, j'ai eu envie de faire des premières prises de vue. Donc j'en ai fait en 2009. Et j'ai su à ce moment-là, quand j'ai rencontré le chef de chantier, qu'elle allait être démolie. Du coup, je me suis dit, mais pour quelle raison ? Et en fait, un jardin zen s'est construit à sa place. Et j'étais dans une sorte d'attente, en tout cas, j'ai été assez patiente. On m'a rappelé quelques temps après, en 2011, alors que je pensais qu'il m'avait oublié. Bon, bref, donc je faisais des relances quotidiennement. J'étais là, mon Dieu, jusqu'à même moi-même l'avoir oublié un peu. Et pour qu'on me rappelle et me dise que le chantier allait se faire et qu'elle allait être du coup démolie et que je pouvais venir sur le chantier et capturer du coup ces derniers instants. Et de ces restes et de cette roche du coup qui reste, enfin c'est un peu particulier, où j'ai pu d'ailleurs rentrer dans cette maison, dans cet antre, et d'avoir un regard du coup intérieur vers l'extérieur et indirectement de capter donc son extérieur pour mieux en révéler donc ces parties, ces chambres ou ces démesures ou... On ne sait plus d'ailleurs ce qu'on regarde, si c'est une maison de poupée ou une architecture un peu gigantesque.
Lamia Ziadé, vous décrivez aussi dans Ma très grande mélancolie arabe beaucoup de lieux de culte qu'on retraverse avec vous en Syrie ou au Liban, à Jérusalem.
Le lieu de culte que pour moi, qui est le plus merveilleux du monde, c'est la mosquée des Omeyyades à Damas, qui renferme le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Et c'est, on revient au début de l'émission où je parlais de la cohabitation des communautés au Liban et la tolérance et de la civilisation dont parlait Amin Mahalouf. Pour moi, ce lieu symbolise le plus la cohabitation des communautés parce que malgré tout ce qui s'est passé en 20 siècles dans cette région, le tombeau a toujours été conservé dans la mosquée. Avant, c'était une basilique qui a été détruite, mais le tombeau a été gardé. Et il y a toujours des pèlerins musulmans qui viennent adorer, enfin se rendre sur la tombe de Jean-Baptiste dans cette mosquée pendant que d'autres prient. Enfin, je trouve que c'est... En plus, le calme qui règne dans cette mosquée est complètement merveilleux. Et en même temps, des enfants courent dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment un lieu génial. J'espère qu'il restera.
On On approche de minuit, c'est l'heure de notre coup de fil à une scène nationale en France. On fait une image avec un artiste depuis un plateau de théâtre. C'est aussi l'heure à laquelle s'intéresse Johan Bourgeois, l'acrobate, l'acteur, danseur, qui a imaginé une nouvelle pièce qui s'intitule « Minuit, tentative d'approche d'un point de suspension ». Une pièce pour quatre interprètes. Ils seront les 16 et 17 novembre à l'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et Val d'Oise. Johan Bourgeois, vous dites que vous aviez atteint un âge qui était la conscience de quelque chose pour faire cette pièce. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi cet âge-là?
C'est l'âge où on peut évaluer, d'ailleurs assez subjectivement, mais que le temps qui reste à vivre, quel qu'il soit, sera trop court.
Et pourquoi tout à coup s'intéresser à minuit? Ça représente quoi cette heure, ce moment-là pour vous?
C'est une heure où on n'a plus vraiment le choix et où il faut être définitivement dans l'instant.
Est-ce que le fantasme, c'est justement de désamorcer le temps, d'avoir d'être maître du temps?
Oh, je dirais pas maître du temps, mais en tout cas de peut-être en effet de sortir du temps qui passe, de cette tyrannie, de cette représentation du temps qui ne fait que passer. On sait bien que c'est pas vrai, le temps ne fait pas que passer, parfois il passe pas. Minuit, c'est un spectacle en perpétuelle évolution, mais qui est basé sur une recherche entamée maintenant il y a quelques années, une recherche qui donne au fil des ans un certain des numéros de cirque qui reposent sur des dispositifs physiques qui, chacun à leur manière, cherchent à rendre perceptible cette notion de suspension.
Merci beaucoup Johan Bourgeois. Vous êtes donc à Cergy-Pontoise, à la scène nationale L'Apostrophe, les 16 et 17 novembre. La Mia Ziadeh, est-ce que minuit, ça ouvre sur un espace mélancolique ou un espace de joie?
Je suis très noctambule. Je me couche jamais avant 3h du matin, même si je n'ai rien à faire chez moi. Minuit, c'est la meilleure heure. C'est le début de la vraie nuit.
Tout commence alors.
Oui.
Yasmina Ben Abderrahman, minuit?
Moi, je vois ça plutôt comme une symétrie. On a deux pans, deux pôles, tout est à faire. On peut voir des choses qui se complètent, d'autres qui s'opposent. Du jour à la nuit, tout dépend de son instant et de son moment.
Et vous dormez ou pas?
Moi, ça dépend. Oui, mais je dors bien sûr.
On sera parti d'une très grande mélancolie déçue du passé pour arriver à des yeux très grands ouverts et exigeants sur le présent. Le récit illustré de Lamia Ziadeh, Ma très grande mélancolie arabe, est aux éditions POL. Yasmina Ben Abderrahman, vous pourrez voir La Renardière le 15 novembre à Bagnolet. Et elle sera dans une exposition à partir du 23 novembre, Les secrets du docteur F à la Under Construction Gallery à Paris. Peter Von Paul sera en concert le 14 novembre à Ajaccio et puis à Béthune, à Brest. La liste de la tournée est sur notre site internet. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et merci à la technique ce soir, à Delphine Baudet et Romain Lenoir. Vous écoutez France Culture, il est minuit, c'est déjà demain, c'est le jour d'après et c'est l'heure des nuits. We'll be right back.
Thank you.